L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, retour sur la grève générale en Belgique mercredi dernier. Une grève particulièrement bien suivie. En France, Airbus qui met un terme à la production de son emblématique A380. C'est le plus gros avion de ligne au monde. Au Canada, le gouvernement Trudeau a-t-il fait pression sur la justice pour éviter à une multinationale d'être poursuivie devant les tribunaux ? On tentera d'y voir clair dans un instant. Au programme également, au Sénégal, un débat télévisé entre candidats à la présidentielle et ce sera une première. Enfin, en Suisse, on verra que la transition énergétique a bien du mal à se mettre en place. Voilà pour le menu francophone. Bienvenue à tous. En Algérie, le président a fait savoir qu'il était candidat à un cinquième mandat et ce, malgré son AVC en 2013, Marie-Pierre Olfan.
Oui, au pouvoir depuis 20 ans, Abdelaziz Bouteflika est un homme très affaibli par la maladie, incapable de s'exprimer en public depuis des années. Il ne pourra d'ailleurs pas lui-même mener campagne pour ce scrutin prévu le 18 avril. À défaut de lui avoir trouvé un successeur, son camp a néanmoins préféré rejouer encore une fois la carte Bouteflika, présentée comme celle de la stabilité. En 2014, sa candidature avait suscité déjà une pluie de commentaires acerbes. Aujourd'hui, sans surprise, la presse algérienne a réagi encore avec ironie à cette annonce, sachant que le président est systématiquement réélu avec plus de 80% des suffrages et que sa candidature implique pour beaucoup que les jeux sont déjà faits.
En France, la fin d'une carrière politique, celle d'Alain Juppé, 74 ans, ancien Premier ministre de Jacques Chirac dans les années 90, maire de Bordeaux depuis 24 ans, il a annoncé jeudi, ému aux larmes, qu'il ne se représentera pas à sa propre succession à Bordeaux en 2020. C'est un crève-cœur, a-t-il dit. J'avais encore tant de projets pour cette ville, mais la proposition qui m'a été faite est aussi un honneur. En fait, Alain Juppé va devenir un sage, c'est-à-dire l'un des 9 membres du Conseil constitutionnel, l'institution française qui veille à la conformité des lois républicaines. En Suisse, Pierre Anchoffat, le patron du Montreux Jazz Festival, est inquiet.
Inquiet, oui, voire alarmiste, Mathieu Jaton, qui a repris les rênes du Grand Festival en 2013 à la mort de son fondateur Claude Nobs, a été désagréablement surpris par le refus des habitants de Montreux de rénover le centre des congrès, ce lieu qui accueille chaque mois de juillet les grands du jazz. Le crédit de 27 millions de francs n'a pas passé la rampe. Mathieu Jaton craint donc que, faute de répondre aux normes incendie actuelles, l'écrin du festival ne soit plus disponible au-delà de l'édition de 2020.
En Belgique, la foire du livre de Bruxelles bat son plein et c'est l'occasion pour la radio de la RTBF, la première, de décerner son prix littéraire, le prix première donc, récompense un premier roman francophone. Et cette année, Maxime Dumoulin, le lauréat s'appelle Alexandre Leneau.
Oui, Alexandre Leneau avec son roman « Écorce vive » publié chez Actes Sud. L'auteur est âgé de 42 ans. Il écrit pour la radio, la télévision et le cinéma. Son livre a été choisi par un jury composé de 10 auditrices et auditeurs de la première. Son roman nous plonge dans l'univers très fermé de fermiers au cœur du Massif central en France. Un homme a mis le feu à une ferme abandonnée. Qui est cet homme? Pourquoi ce geste? Dans ce roman construit comme un polar, Alexandre Leneau donne la voix à 3 personnages en rupture avec la société, mais rend hommage à la force de la nature.
Benoît Audet, au Canada, pour vos personnalités de la semaine, vous avez choisi 2 philanthropes.
Oui, John et Marcy McBall McBain, leur fondation a annoncé le versement d'une somme record de 200 millions de dollars à l'Université McGill de Montréal. Ce serait le don le plus important de toute l'histoire du Canada. Les 2 donateurs sont des entrepreneurs qui sont à la tête d'un empire qui possède notamment des magazines et des sites web.
C'était jour de grève nationale. Mercredi, dans toute la Belgique, aucun avion n'a pu décoller ou atterrir du mardi soir jusqu'au mercredi soir. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Maxime Dumoulin, cette grève a donc été particulièrement bien suivie.
Oui, des grèves nationales n'ont pas lieu tous les jours chez nous. La dernière remonte à il y a plus de 4 ans. Le mouvement a été très bien suivi, vous le disiez. Les administrations, les transports, la poste, les écoles, la collecte des déchets, les entreprises, les centres commerciaux, beaucoup de secteurs très perturbés et les aéroports à l'arrêt complet. Donc un phénomène étonnant encore plus pour les habitants voisins des pistes d'atterrissage. Pierre Ledoux habite non loin de l'aéroport national de Bruxelles. Il n'avait pas connu un calme pareil depuis 50 ans.
C'est un jury inespéré, c'est pour ça qu'on en profite. Vous voyez, on est même dehors, j'étais dehors avant que vous n'arriviez, et on respire, on retrouve enfin le calme qu'on a connu dans le temps. Et on se dit, mon Dieu, si ça pouvait durer, mais on sait que malheureusement, demain matin, ils seront là au rendez-vous.
Des riverains qui ont vécu cette journée comme une aubaine, au cœur des revendications des syndicats, se trouvait le pouvoir d'achat.
En France, comme un oiseau qui se serait brisé les ailes, Airbus a donc annoncé cette semaine l'arrêt de la production du plus gros avion de ligne du monde, l'A380, capable de faire voyager jusqu'à 850 passagers. C'est la fin d'un programme qui a été lancé il y a seulement 12 ans, mais le carnet de commandes n'était pas suffisamment rempli et son plus gros client, la compagnie Emirates, a préféré réduire la voilure. À la place des 40 A380 prévus, la compagnie du Golfe préfère finalement commander des avions plus petits, A350, A330. Le Super Jumbo est décidément trop gros, trop gourmand et donc trop cher. Un constat d'échec qui rappelle d'ailleurs celui du Concorde dans les années 70-80. Alors pour les salariés d'Airbus, l'arrêt de cet avion A380, eh bien ce n'est pas vraiment une surprise. Écoutez Xavier Petraki, il est délégué syndical CGT d'Airbus sur le site de Toulouse.
Avec le changement en fait de modèle économique des compagnies aériennes, avec la pression aussi des compagnies low cost, eh bien Emirates veut peut-être passer un avion moins gourmand en maintenance, peut-être en achat, en utilisation, face à des avions de dernière technologie comme la 350 ou peut-être même le 787. Donc ça veut dire que ces avions de dernière technologie, avec un coût moindre d'achat que le 380, peuvent transporter quasiment autant de passagers avec des coûts de production largement inférieurs.
Alors chez Airbus, près de 3500 salariés seront concernés par l'arrêt de l'A380. Est-ce que chacun pourra être reclassé, redéployé sur les autres programme A350, A330. Les discussions entre la direction et les syndicats devraient s'ouvrir dans les prochaines semaines. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau est embarrassé par une affaire qui implique la multinationale SNC-Lavalin. Ça a commencé par des révélations dans un grand quotidien la semaine dernière. Elles ont déjà même entraîné le départ d'une ministre de son cabinet. Benoît Audet, quelle est donc cette affaire qui fait la une chez vous?
Oui, au départ, comme vous le disiez, c'est un article publié dans un quotidien torontois, le Globe and Mail, qui a mis le feu aux poudres. Selon ces allégations, le gouvernement de Justin Trudeau aurait fait pression sur la ministre de la Justice, Judy Wilson-Raybould, pour qu'elle négocie une entente entre la compagnie SNC-Lavalin et la poursuite pour éviter que la multinationale ne se retrouve devant les tribunaux dans un procès pour fraude et corruption. Et
il faut dire aussi que cette histoire a connu pas mal de rebondissements ces derniers jours.
Oui, avant même les révélations du Globe and Mail, la ministre Wilson-Raybould avait perdu son portefeuille de la justice pour se retrouver au ministère des Anciens Combattants, un poste moins prestigieux. Et cette semaine, elle a carrément décidé de claquer la porte du cabinet. On n'a toutefois pas encore eu sa version des faits, donc il est difficile d'aller au fond des choses dans cette affaire tant qu'on ne l'aura pas entendue.
Et en attendant, eh bien, une enquête a déjà été ouverte.
Oui, le commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique a déjà annoncé qu'il va se pencher sur cette affaire. Il doit déterminer si Justin Trudeau a contrevenu à la loi sur les conflits d'intérêts. Il s'agit d'une des crises les plus importantes à avoir frappé le gouvernement libéral jusqu'à maintenant. Et il faut s'attendre à d'autres rebondissements au cours des prochaines semaines.
Ce sera une première au Sénégal, un débat télévisé entre candidats à la présidentielle, Marie-Pierre Olfan.
Oui, il aura lieu le 21 février, la semaine prochaine, 3 jours avant le scrutin. L'idée a été lancée au départ par des blogueurs et des activistes il y a plusieurs mois, sur Twitter et aussi via des pétitions. La principale a rassemblé d'ailleurs plus de 9000 signatures. Alors, fort de l'enthousiasme des Sénégalais, 2 médias privés retransmettront ce débat. Le bémol, c'est que seuls 4 des 5 candidats à la présidentielle y participeront. Le président sortant a en effet refusé. Dès janvier, certains conseillers du chef de l'État avaient expliqué que ce type de débat n'intéressait pas Macky Sall, car l'opposition était en permanence dans la calomnie. L'opposition qui, de son côté, reproche au président d'avoir tout fait pour écarter plusieurs opposants de la course à la présidentielle afin d'être réélu.
Et 2 journalistes et 1 médiateur seront aux commandes de ce débat.
Et ce débat se déroulera en Wolof, la langue la plus parlée au Sénégal. Mais un débat entre entre quatre opposants ne risque-t-il pas de perdre de son intérêt? L'un des candidats avait émis des doutes il y a quelques jours en estimant que ce débat pourrait favoriser finalement le grand absent, le président, qui ne sera pas de fait amené à s'expliquer sur son bilan. Ceux qui ont lancé l'initiative espèrent en tout cas avec ce débat renouveler la pratique démocratique au Sénégal. L'objectif étant évidemment qu'ensuite les promesses soient respectées. C'est une autre bataille qu'il faudra mener cette fois-ci après le scrutin.
En Suisse, Pierre Anchoffat, la transition énergétique peine à se mettre en place dès que les mesures précises doivent se concrétiser.
C'est vrai, dimanche dernier, les citoyens du canton de Berne ont refusé, certes de justesse, mais refusé tout de même la loi sur l'énergie, un texte ambitieux qui visait à sortir du fossile, notamment par l'interdiction des chauffages à mazout dans les nouvelles constructions. Un vote qui avait valeur de test pour l'ensemble du pays, puisqu'en Suisse, ce sont les cantons qui définissent les normes de construction et autres mesures énergétiques. Et pour le socialiste Hervé Gulotti, le signal que donne cette sanction populaire est plutôt déprimant.
C'est un message d'hésitation, c'est un message de frein et nous allons souffrir de ce déficit vis-à-vis de ces 22 000 jeunes qui ont manifesté dans nos villes, qui ont dit mais écoutez, faites quelque chose, prenez ce dossier en main et qu'est-ce qu'on leur dit maintenant? Écoutez, non, ça va trop loin, laissez faire le libéralisme, vous verrez, ça apportera des solutions à l'environnement, ce qui n'est absolument pas vrai.
La conviction donc que sans contrainte, la Suisse n'atteindra pas les objectifs de réduction des gaz à effet de serre adoptés à Paris lors de la COP21. Députée de la majorité bourgeoise de l'UDC, Anne-Coraline Graber se réjouit, elle, d'avoir pu empêcher une loi qu'elle juge liberticide.
Elle aurait soumis certains propriétaires à encore davantage de contraintes législatives qui auraient chargé beaucoup ces derniers. La loi bernoise sur l'énergie a été considérée en 2014 comme l'une des plus avant-gardistes et des plus exemplaires de Suisse par le WWF. Dès lors, insister encore davantage s'apparentait à une forme de harcèlement législatif.
Les mots sont forts, évidemment, mais ils traduisent à la perfection cette fracture idéologique sur le rôle de l'État, quelle que soit l'urgence climatique.
Voilà donc pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous francophone, ce sera la semaine prochaine, au même endroit et à la même heure.